Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Retour sur la présidence Kennedy dans la Marche du Monde avec la voix de JFK, 35e président des États-Unis, Kennedy, le président qui voulait conquérir la Lune.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Aucune limite au programme politique de Kennedy, Paul Shore. Son programme intitulé « La nouvelle frontière » prévoit même d'envoyer un Américain sur la Lune. Et ça marchera quelques années après son assassinat.
C'est quelque chose qui résume très bien en fait la personnalité de Kennedy. C'est-à-dire que d'un côté, le programme « La nouvelle frontière » et aller sur la Lune, c'est un message d'optimisme, c'est une incitation pour la jeunesse, c'est ce côté très combatif et optimiste que Kennedy projette. D'un autre côté, la raison principale pour laquelle Kennedy a soutenu ce programme, c'est la compétition avec les Soviétiques. C'est-à-dire que pour lui, la raison quasiment unique, ou en tout cas très importante, c'est rattraper et dépasser l'Union soviétique avec cette idée que la maîtrise de l'espace est un enjeu stratégique et militaire, et aussi de prestige, et notamment les Américains s'inquiètent en se disant, mais si les, en particulier les pays d'Afrique qui voient que ce sont les Soviétiques qui les premiers ont mis sur orbite une fusée avec le Spoutnik, l'étoile soviétique pourrait briller plus fortement que celle des États-Unis. Il semble que Kennedy, avant de devenir président, s'intéressait pas du tout au programme spatial, mais vraiment pour lui, c'est indissociable de la guerre froide.
Et c'est tout le contexte politique donc de ce programme Apollo. Donc Kennedy, jeune, moderne, en rupture avec son rival Nixon ou encore son prédécesseur Eisenhower. JFK qui veut faire reculer les frontières de la conquête spatiale, vous l'avez souligné, mais aussi du communisme, bien sûr. Il insiste dans ses discours sur le fait qu'il y a deux catégories de pays, les pays amis et les pays ennemis. Alors l'Afrique, nouvellement indépendante que vous venez de citer, est également un enjeu de ce combat entre l'Est et l'Ouest. Et on sait par exemple la violence avec laquelle la CIA a participé à l'assassinat de Patrice Lumumba. C'était 3 jours tout de même avant la prise de fonction de Kennedy. Est-ce que c'est à l'époque encore l'administration Nixon ou est-ce que c'est déjà Kennedy en quelque sorte qui est responsable de cette participation à l'assassinat de Lumumba?
Je suis pas sûr, mais je pense pas que Kennedy soit directement responsable, mais de façon générale, les différentes opérations mises en place par la CIA, par son prédécesseur, par Eisenhower, Kennedy les a appliquées. C'est-à-dire que il hérite, par exemple, de la baie des cochons, et ils mettent en œuvre ce programme qui a été préparé par l'administration précédente, avec le résultat catastrophique que l'on sait. Mais d'un côté, l'administration Kennedy va notamment en direction de l'Afrique, mettre en avant un visage beaucoup plus souriant de l'Amérique qui sera le Peace Corps, envoyer des jeunes volontaires américains qui font de l'aide humanitaire. Et pour garantir en fait le succès de ce programme, ils obtiendront que la CIA n'essaye pas d'enrôler ces jeunes américains idéalistes comme espions. Mais c'est vrai que la présence américaine, du coup, notamment en Afrique, va avoir ces deux visages.
Donc au fond, Paul Shore, c'est plus un double jeu qu'une rupture?
Disons que le tournant est sincère et que Kennedy ne l'était peut-être pas, mais Kennedy s'est appuyé sur cette jeunesse américaine idéaliste. Par contre, je pense qu'effectivement, sur le fond de la politique étrangère, il reste dans la continuité de ses prédécesseurs.
Kennedy, la politique intérieure des États-Unis, c'est la volonté de lutter contre la pauvreté et contre la ségrégation raciale. Et d'ailleurs, Paul Shore, ce qui est frappant lorsqu'on regarde les images photographiques ou filmiques de Kennedy et plus largement les images de cette Amérique du début des années 60, on voit finalement une Amérique riche, jeune, moderne, blanche, en bonne santé, j'allais rajouter. Alors là, on n'est plus dans le mythe, mais carrément dans le mensonge et la propagande qui s'exprime. C'est une espèce de secret de famille de l'Amérique qui est éclate par son absence quand on regarde les photos, cette ségrégation, cette pauvreté.
Alors c'est vrai que aussi bien la question de la ségrégation et la question de la pauvreté sont des questions qui existent, mais qu'on voit peu dans les médias, en particulier qu'on voit peu dans ce nouveau média qu'est la télévision. Kennedy, lui, s'est sensibilisé assez tardivement à ces deux questions, mais au cours de sa présidence, on le voit évoluer. Et en fait, sur la question de la pauvreté, c'est en particulier pendant la campagne présidentielle où il reste pendant une période assez longue en Virginie-Occidentale, un des États les plus pauvres des États-Unis. Lui qui vient d'une famille très riche, il découvre cette pauvreté persistante, pauvreté en l'occurrence de l'Amérique blanche rurale. Et c'est pour lui, comme pour beaucoup de ses conseillers, un choc, puisque il faut rappeler que c'est une époque globalement de grande prospérité pour les États-Unis. Et les Américains s'étaient un peu raconté que par rapport à l'époque de la Grande Dépression des années 30, la pauvreté avait disparu. Et donc on redécouvre dans les années 60 la pauvreté aux États-Unis. Sur la question de la ségrégation, c'est assez compliqué parce qu'en fait Kennedy n'était pas très concerné par cette question, même s'il considérait que c'était un problème. Pendant longtemps, son approche est celle de son frère Robert, qui est donc Attorney General, le ministre de la Justice, une approche très légaliste. Donc leur position, c'est surtout ce qui les dérange, c'est lorsque les ségrégationnistes apparaissent à la télévision comme ne respectant pas la loi. Donc à ce moment-là, ils vont intervenir aux côtés des militants des droits civiques, mais il faudra attendre quand même un certain temps avant de voir un vrai engagement.
Grand témoin de ces années Kennedy, violentes et fascinantes. J'appelle Julius Coles aux États-Unis. Julius Coles est directeur des affaires internationales du centre Andrew Young et militant pour la cause des Noirs. Julius Coles, merci beaucoup d'accepter de témoigner sur l'antenne de RFI. Nous sommes en duplex avec vous depuis Washington. Un premier flashback. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous lorsque John Fitzgerald Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963 ?
Oui, j'étais en train de retourner de mon université. J'ai été étudiant pendant cette période à un college à Atlanta qui s'appelle Morehouse College. Et j'ai pris la télévision et boum, j'étais vraiment choqué de trouver que Kennedy était assassiné.
Qu'est-ce que vous avez ressenti précisément ?
J'étais vraiment choqué. Dans notre pays, c'était incroyable. On a eu une période vraiment de la lutte contre la ségrégation et le racisme et tout ça, mais pour imaginer qu'un président d'un pays comme les États-Unis peut être assassiné, c'était pas possible.
Julius Coles, vous venez de le mentionner spontanément, les années 60, le début des années 60 aux États-Unis, c'est une société de la ségrégation qui existe encore. Alors pour mieux comprendre votre vision de Kennedy, quel était votre sentiment personnel sur la situation des Noirs aux États-Unis au tout début des années 60 ?
Mais c'était une période assez difficile pour les Noirs. J'ai vécu dans une ville qui était vraiment ségrégée, Atlanta, et j'étais dans une société qui était vraiment noire. Et pendant cette période, on croyait que le président Kennedy donnait l'espoir pour nous, parce qu'il était une présidente jeune, et nous croyons que nous pouvons faire le progrès avec ce président. Parce que vous pouvez souvenir que Martin Luther King était mis en prison. Kennedy a téléphoné à la femme de Martin Luther King de dire « Je ne suis pas d'accord avec son emprisonnement ». Et ça a donné beaucoup d'espoir que ici, c'est un président qui va nous aider et qui va faire des progrès dans la société américaine contre le racisme.
Alors effectivement, quand JFK apporte son soutien à Luther King, c'est quand Luther King, vous venez de le mentionner, est emprisonné tout près d'Atlanta. On est pendant la campagne présidentielle. C'est une campagne qui oppose Nixon et Kennedy. Pour quelles raisons, vous, en tant que militant pour les droits civiques, Kennedy est-il votre candidat ?
Oui, il était mon candidat parce que il était jeune. Il était intelligent, il a eu une très bonne éducation et le candidat Nixon était regardé comme un conservateur et un homme qui n'était pas pour les Noirs.
Lorsque Kennedy devient président des États-Unis, vous pensez qu'à ce moment-là, enfin les Noirs vont pouvoir avoir accès à l'American Way of Life, avoir accès à la société de consommation, que le problème de la ségrégation va enfin devenir un problème national. Ce sont toutes ces revendications-là qui, pour vous, le jour de la victoire de Kennedy, vont enfin être posées sur la table. C'est ça que vous pensez à ce moment-là ?
Oui, c'est ça. On a eu beaucoup d'espoir que c'est un président qui va changer la culture de ségrégation américaine. Peut-être on était trop optimiste dans ce sens-là, mais on a eu beaucoup d'espoir qu'il va changer la situation très drastiquement.
Mais JFK prend son temps et les tensions montent. Si la loi interdit la ségrégation à l'école, elle continue de s'exercer. Et en juin 63, le gouverneur George Wallace empêche personnellement deux étudiants noirs d'entrer à l'université toute blanche d'Alabama. Ils s'appellent Vivian Malone et James Hood.
As governor and chief magistrate of the state of Alabama, I deem it to be my solemn obligation and duty to stand before you. The unwelcome, unwanted, unwarranted, and force-induced intrusion.
Wallace juge l'intrusion du gouvernement central dans l'université de l'Alabama indésirable, intempestive et injustifiée. Wallace dénonce et interdit cette action illégale et injustifiée du gouvernement central. Ce à quoi le secrétaire d'État à la justice répond. Je déduis de cette déclaration que vous allez rester devant cette porte, que vous n'allez pas vous conformer à l'ordre de la Cour fédérale et que vous allez nous empêcher de l'appliquer. Wallace s'en tient à sa déclaration et refuse de laisser passer les deux étudiants noirs pour qu'ils s'inscrivent. Et dans le film de Robert Drew, intitulé « Crisis », qui décrit de l'intérieur de la Maison Blanche l'ensemble de cette crise, on découvre comment Robert Kennedy, ministre de la Justice et frère de John Kennedy, va conseiller à son frère d'accélérer le mouvement et de prendre la parole afin de prononcer un discours qui n'était pas encore à l'ordre du jour. Le soir même, le 11 juin 63, John Kennedy prononce son discours majeur sur les droits civiques.
100 years of delay have passed. Since President Lincoln freed the slaves.
100 ans ont passé depuis que le président Lincoln a libéré les esclaves. Et aujourd'hui, leurs petits-enfants ne sont pas pleinement libres. Ils ne sont toujours pas libérés du carcan de l'injustice. Ils ne sont toujours pas libérés de l'oppression sociale et économique. Et cette nation, pleine d'espoir et de fierté, ne sera jamais totalement libre tant que tous ses citoyens ne le seront. Nous prêchons la paix dans le monde entier, et nous y croyons. Mais allons-nous dire au monde, et plus grave, à chacun d'entre nous, que notre terre est celle de la liberté, sauf pour les Noirs, que nous n'avons pas de citoyens de seconde zone, sauf les Noirs, que nous n'avons ni classe, ni ghetto, ni race supérieure, sauf au regard des Noirs. Il est temps d'agir au sein du Congrès. Et par-dessus tout, dans notre vie quotidienne. Il n'est pas suffisant d'accuser les autres, de dire que c'est un problème d'une partie du pays. Un grand changement est à portée de main. Et notre devoir est de faire cette révolution, ce changement pacifique et constructif pour tous.
Julius Coles, donc si on s'interroge aujourd'hui sur ce mythe Kennedy et notamment sur le soutien des Kennedy, John et Robert à la cause des militants pour les droits civiques, au fond aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'ils ont agi par conviction pour la cause de l'égalité ou bien parce que vous les militants, vous avez réussi à exercer une telle pression dont l'apogée a été la marche sur Washington d'août 63 qu'ils ont été obligés de prendre en compte votre cause et d'en faire une cause nationale?
Il faut voir que les gens de Kennedy étaient des gens qui sont venus de la société américaine très riche. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Robert Kennedy après l'administration de son frère. Et c'était la première fois que j'ai rencontré. J'étais vraiment choqué. C'était un homme qui était gentil, mais en même temps, c'était un homme que je crois qu'il n'était pas si près des Noirs que j'ai pensé. Dans un sens vraiment de l'amitié et dans un sens qu'il était un frère. il était assez distant. Il a eu des bonnes idées, il veut aider les gens, mais en même temps, je me sentais personnellement une distance entre nous et lui. Je crois que les frères Kennedy, ils ont été contre la ségrégation, ça c'est sûr. Mais dans le même sens, les changes dans la société américaine ont été trop lentement pour les gens militants. Et je crois que la marche à Washington a démontré que les Noirs, ils veulent encore un progrès plus rapide.
Vous avez un souvenir personnel de la marche de Washington?
J'étais un militant à ce point-là, j'étais assez libéré, comme j'étais en Europe pendant une année avec des études à Genève, et j'ai dit, nous avons eu des rêves trop longs, et maintenant il faut changer la situation. Et j'étais assez frustré avec cet discours qui est peut-être le discours qui est le plus historique dans l'histoire américaine. Mais comme étudiant dans cette période de ma vie, j'étais vraiment un petit peu fâché que Martin Luther King a dit qu'il a un rêve. Et je dis, le temps de rêve est fini, il faut changer la situation.
100 years later. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later.
C'est toujours difficile de refaire l'histoire, bien sûr, mais à votre avis, JFK aurait-il fait passer le Civil Rights Act de 1964 tel que Johnson l'a signé, une loi très importante qui, au fond, allait bien plus loin que ce que JFK avait prévu en termes de Civil Rights? Quel est votre sentiment?
Je crois que Johnson a fait beaucoup plus que n'importe quel président dans notre histoire. Johnson était un homme vraiment fantastique qui a vraiment fait beaucoup de législations qui ont aidé les Noirs et qui ont fait des progrès contre la ségrégation et le racisme américain. J'ai une très bonne opinion de président Johnson et je crois historiquement que les Noirs américains croyaient que Johnson, pour eux, était une des grands présidents.
Alors, il faut rendre justice à Johnson aujourd'hui?
Oui, il faut donner plus de justice à lui, parce que les gens ne le voient pas, parce qu'ils pensent toujours de la guerre au Vietnam, et ils ne pensent pas plus que ça quand ils voient Johnson, mais quand vous voyez son administration en total, je crois qu'il était une des grands présidents américains.
Merci infiniment, Julius Coles, pour ce témoignage. Vous étiez avec nous en duplex depuis Washington.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Et dans la marche du monde, nous revisitons le mythe Kennedy et notamment la question de son engagement sur les droits civiques des Noirs. Alors, parole à l'historien Paul Shore, vous nous accompagnez depuis le début de cette émission. À l'écoute de Julius Coles, à l'écoute aussi des extraits de ce film Crisis de Robert Drew, quelle est votre conviction sur la profondeur de l'engagement des Kennedy pour la cause des Noirs?
Écoutez, moi je crois que Julius Coles a parfaitement exposé la situation, c'est-à-dire que Kennedy a suscité des attentes, mais que le rythme de ses réformes et de son engagement était en deçà de ce que les militants des droits civiques espéraient. Et c'est pour ça que les militants des droits civiques ont adopté assez délibérément une tactique qui était en fait d'utiliser un certain nombre de décisions de la Cour suprême qui autorisait par exemple la déségrégation des transports, en sachant que les autorités dans le Sud allaient réagir, et pour obliger le gouvernement fédéral, en l'occurrence Kennedy et son gouvernement, à agir. C'est-à-dire qu'ils ont mis une pression sur le gouvernement, et la marche de Washington en août 63 s'inscrit aussi là-dedans. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a une coopération entre les organisations des droits civiques et entre King et les Kennedy, mais d'un autre côté, il n'y a pas une confiance absolue et ils pensent qu'il faut maintenir la pression. Et j'étais aussi très sensible à ce que disait Julius Cole sur une réévaluation qui serait nécessaire de la présidence de Lyndon Johnson.
Alors justement, Paul Scheer, faut-il rendre à Lyndon Johnson ce que la mémoire collective a prêté à Kennedy, en quelque sorte?
Mais la grande loi des droits civiques de 1964 que signe Johnson, effectivement, elle a été préparée par l'administration Kennedy, mais ensuite, elle est réécrite au Congrès.
Voilà,
et elle est renforcée.
Tout est dans ce terme, réécrite.
Voilà. Bon, ce qui est le processus normal, la différence entre Kennedy et Johnson sur ce point, c'est que Johnson va décider une chose à laquelle Kennedy se serait peut-être résolu, mais ce n'est pas sûr, qui est de sacrifier en fait les voix des blancs démocrates du Sud.
Les fameux Dixiecrates.
Voilà. Et donc il faut savoir que le Parti démocrate, donc le parti de Kennedy, avait une composante très importante qui était les démocrates du Sud, qui rejoignaient les autres démocrates sur un certain nombre de choses, mais qui étaient des partisans acharnés de la ségrégation, à la différence d'un certain nombre de démocrates du Nord. Et le problème pour Kennedy, qui avait été élu avec une majorité très courte, président, et qui devait composer avec un congrès où les conservateurs, y compris les conservateurs au sein de son propre parti, étaient assez nombreux et influents, c'était que s'il s'engageait trop clairement pour la défense des droits civiques, il risquait de perdre le soutien de ces élus-là pour d'autres projets qui lui tenaient à cœur. Par exemple, son projet sur la pauvreté. Ce qui explique pourquoi il a temporisé, ce qui explique pourquoi aussi il a voulu d'abord mettre l'opinion de son côté en montrant par exemple la brutalité policière dans le Sud, pour que une loi sur les droits civiques apparaisse comme vraiment inévitable, et non pas comme une initiative de Kennedy, mais quelque chose qui était une mesure nécessaire.
Il a fallu donc ces images choc hein, de violence, notamment lorsqu'on voit les policiers lâcher les chiens hein, sur les militants des droits civiques, et que l'opinion publique américaine soit choquée. Il a attendu ce moment-là, en quelque sorte.
Oui, en fait, c'est-à-dire que bon, il avait déjà fait un certain nombre de choses, mais à ce moment-là, c'est vraiment un tournant, aussi bien pour John Kennedy que pour son frère Robert. Quelqu'un proche des Kennedy a dit que Bull Connor, chef de la police qui avait lâché les chiens sur les manifestants, avait fait plus pour les droits civiques qu'aucun des militants des droits civiques. C'est sûr que Kennedy était sensible à ça, et Kennedy, une fois encore, obsédé par les questions de politique internationale, était conscient aussi de la mauvaise image que ça donnait, en particulier en Afrique,
des États-Unis.
Vous avez raison
de parler d'images, puisque ce sont aussi les débuts de la télévision et que ces images ont été extrêmement médiatisées.
Et Kennedy était donc sensible à ça, et il était aussi sensible aux informations que leur donnaient les diplomates américains qui rapportaient les plaintes que donnaient ces diplomates africains, ces chefs d'État africains qui venaient aux Nations Unies et qui, quand ils leur prenaient l'idée d'aller dans le sud des États-Unis, ne pouvaient pas se faire servir dans les restaurants. Et ça, pour Kennedy, qui plaçait encore une fois les affaires étrangères en tête, pendant un certain temps, il a aussi lu la question des droits civiques comme une question de politique étrangère, mais il n'avait pas anticipé la brutalité et le manque de souplesse vraiment des ségrégationnistes du Sud. Et finalement, c'est la rigidité des ségrégationnistes qui a poussé Kennedy à se rapprocher des demandes des militants des droits civiques. Et Johnson, lui, a été beaucoup plus loin et il a accepté de faire ce que Kennedy n'avait pas voulu faire, c'est-à-dire risquer et en fait perdre un capital politique important en s'engageant clairement du côté du moins de droit civique. C'est ce que Johnson a dit quand il a signé en 65 la loi qui protégeait le droit de vote des Noirs dans le Sud. Et Johnson a dit, je sais que en signant cette loi qui donne des droits aux Noirs du Sud, je suis en train de perdre les États du Sud et de les donner au Parti républicain. Mais il l'a fait quand même. Et c'est cette chose-là que Kennedy n'avait pas voulu faire, parce que Kennedy garder les yeux fixés sur les prochaines élections. Et il savait que une partie de la société n'était pas encore prête, mais peut-être qu'il y avait une partie de la société américaine qui était aussi bien plus prête que lui ne le pensait, ou en tout cas plus prête que lui.
En tout cas, c'est toute la question du courage en politique. Néanmoins, Paul Scheer, qu'est-ce que vous retiendrez de Kennedy?
Il a eu quand même un certain courage politique, mais il restait assez calculateur. Il est possible aussi que ça ait été plus facile de faire passer la loi des droits civiques en 64 qu'en 63. On ne sait pas ce que Kennedy aurait fait s'il avait survécu. On sait aussi aujourd'hui que c'était quelqu'un qui a affronté de grandes difficultés personnelles, notamment tous ses problèmes de santé, avec beaucoup de courage aussi.
Alors ça aussi, ça ne transparaissait pas du tout dans les images.
Non, mais c'est vrai que le rapport des médias à leur président a beaucoup changé depuis cette époque. De la même façon que Roosevelt, qui avait eu la poliomyélite, n'était jamais montré en chaise roulante, Kennedy avait beaucoup de problèmes de santé qui parfois faisaient qu'il ne pouvait pas se montrer en public. Mais il y avait à cette époque encore un accord avec la presse pour qu'un certain nombre de choses ne soient pas montrées.
C'est-à-dire notamment ses maîtresses.
Oui, notamment ses maîtresses, même si on pouvait voir que sa relation avec Marilyn Monroe, qui était assez publique, était sans doute un peu plus que juste le fait qu'elle vienne chanter pour son anniversaire. Mais les médias ont participé à la construction du mythe, c'est-à-dire une histoire qui a largement été scénarisée par Kennedy et son entourage, à laquelle beaucoup d'Américains ont voulu croire, parce que c'était aussi quelque chose qui correspondait à l'époque.
If you listen, you can hear it call. Whalery.
Whalery.
There is a river called the River of No Return.
Paul Short, un conseil de lecture peut-être?
Parmi la masse de biographies qui ont été publiées sur Kennedy, il y en a aussi un certain nombre en français. Je conseillerais le livre très récent et très court de Vincent Michelot qui s'appelle tout simplement Kennedy.
Le mythe Kennedy, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani avec notre stagiaire Philippine Veil. Toutes les informations sont à retrouver sur rfi.fr, sur la page de La Marche du Monde où vous pouvez nous écrire, marche.monde@rfi.fr. Rejoignez-nous également sur Facebook, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
You never...